Histoire de Palestine. Une émission proposée et réalisée par le collectif Palestine 12. Premier épisode de Bâle à Balfour.
Bonjour. Le collectif Palestine 12, c'est un groupe de personnes qui ont pu constater en Palestine la situation d'apartheid et qui ont pu rencontrer aussi les opposants israéliens à la politique menée par leur pays. Il accueille toutes les personnes qui, connaissant la situation politique en Palestine, refusent l'injustice faite au peuple palestinien. Le collectif travaille en relation avec les associations nationales de soutien aux Palestiniens, comme l'association France-Palestine-Solidarité, AFPS, l'Union juive française pour la paix, UJFP, le mouvement Boycott, Désinvestissement, Sanctions, BDS. Le collectif Palestine 12 combat toutes les formes de racisme. Notre rôle est d'informer sur le conflit des Palestiniens par des réunions, des manifestations, heures de silence, organisation d'un ciné-Palestine, émission de radio aujourd'hui. De soutenir la résistance des Palestiniens en accueillant des militants palestiniens, en favorisant la vente de produits palestiniens, huile d'olive, broderie. De participer aux campagnes de boycott, désinvestissement, sanctions, faisant suite à la demande de la société civile palestinienne face à la politique d'apartheid dénoncée par de nombreuses ONG et associations. Le BDS est une réponse citoyenne et non violente à l'impunité d'Israël. Nous en reparlerons dans nos prochaines émissions. Notre rôle est aussi de sensibiliser la société civile française et les élus pour qu'ils puissent intervenir au niveau national et permettre que la France prenne un vrai rôle dans la résolution de ce conflit. Notre objectif à travers ces émissions de Radio Larzac est d'aider à comprendre et de faire réfléchir sur ce très long conflit qui nous touche de près et dont l'absence de solution juste a des répercussions graves dans le monde entier.
De Bâle à Balfour. Dans cette émission, nous allons essayer de comprendre ce qu'est le sionisme et ce que cette idéologie porte en elle. C'est une question fondamentale pour appréhender la situation d'aujourd'hui et pour y répondre. Il est nécessaire d'interroger l'histoire. Tout d'abord, quelle est l'origine du mot sionisme ? Cela vient de Sion, qui est le nom de la principale colline de Jérusalem. D'ailleurs, le nom s'étendit même à la ville tout entière.
Et alors, comment peut-on définir le sionisme ?
Le mot sionisme désigne à la fois une idéologie et un mouvement de la communauté juive visant à la formation d'un foyer national juif en terre d'Israël. Contrairement à ce qu'on imagine fréquemment, ce ne sont pas les juifs qui sont à l'origine du sionisme, mais des protestants anglo-saxons au XVIIe siècle. Pour ces sionistes chrétiens, Dieu a fait don de la terre d'Israël et de Jérusalem au peuple juif. Selon leur interprétation, les juifs doivent revenir en terre sainte, puis se convertir. C'est un préalable au retour du Christ et à l'avènement de la fin des temps. Ceux qui refuseront la conversion devront disparaître.
Oui, c'est intéressant de s'arrêter un peu sur cette période. Mes sources ici sont issues de l'historien israélien Shlomo Sand dans « Comment la terre d'Israël fut inventée ». La scission des chrétiens entre protestants et catholiques, ce qu'on appelle la réforme, est majeure en Angleterre. La réforme exclut le pape et promeut la Bible, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Ce qui provoque un engouement pour, d'une part, le peuple juif, qui devient un modèle historique, fondement d'une proto-nation avec identification au peuple élu. D'ailleurs, on fera revenir les juifs exclus 250 ans plus tôt. Et d'autre part, l'idée de faire renaître le pays de la Bible. Les plus radicaux, les puritains, associent le salut auquel ils aspirent à la renaissance d'Israël. Tout a commencé par un sionisme religieux. Une partie de ces protestants émigreront plus tard aux USA. Ces protestants, dont le sionisme est devenu politique, sont actuellement une force dont l'influence est énorme pour le soutien à la politique israélienne actuelle.
Ailleurs, dans le monde catholique, les juifs restent les représentants du peuple déicide. Ces chrétiens pratiquent à cette époque une discrimination que l'on qualifie comme étant de l'anti-judaïsme religieux. Depuis longtemps en Europe, les chrétiens persécutent les juifs. Ces derniers sont assignés de force dans leurs quartiers, les ghettos, dont ils ne peuvent sortir librement.
Oui, par exemple, à Venise, en 1516, les juifs vivent librement, entre guillemets, dans un quartier nommé ghetto. Ghetto, ce mot vient du vénitien, signifiant fondre à cause des fonderies existant dans ce quartier qui se situait sur une île. Ils peuvent en sortir le jour, mais doivent porter un signe distinctif et doivent rentrer la nuit et les portes sont fermées. Ça sera Bonaparte qui fera détruire les portes en 1797.
Des métiers aussi leur sont interdits. On les accuse de tous les maux, d'empoisonner les puits, d'enlever les enfants pour les saigner, etc. Par exemple, en 1349 à Strasbourg, 2000 juifs seront brûlés, accusés d'avoir propagé la peste noire. Au milieu du XIXe siècle, cet anti-judaïsme religieux va se transformer en antisémitisme racial. Le juif n'est plus seulement un croyant infidèle, il devient un être d'une race spécifique. Avec l'émancipation qui commence en France et en Allemagne, et la sortie des ghettos, les juifs deviennent une minorité invisible. Objet de tous les délires. Ils sont accusés d'être partout, de vouloir dominer le monde.
D'où vient cette accusation ?
Ce siècle est celui du colonialisme omniprésent. Des scientifiques, des anthropologues, des historiens vont développer l'idée qu'il y a des races inférieures. En Europe, les Juifs, ainsi que les Tziganes, feront partie de celles-là. L'anti-judaïsme chrétien qui a forgé l'antisémitisme populaire est relayé par les théories racialistes et gagne les classes dirigeantes et intellectuelles. À cette époque, aux confins de l'Empire tsariste, vivent 6 millions de juifs, la plupart dans le Yiddishland. zone de résidence, qui leur est réservée, c'est-à-dire la partie non russe de l'Empire, qui comprend les pays baltes, la Pologne orientale, la Biélorussie et l'Ukraine. Les Juifs sont confrontés à un antisémitisme d'État. La police secrète tsariste ira même jusqu'à inventer un faux document, les protocoles des sages de Sion, qui sera diffusé bien au-delà des frontières. Dans cet écrit diffamatoire, les Juifs et les francs-maçons, en général ça va ensemble, sont présentés comme voulant se rendre les maîtres du monde. Ils sont victimes de pogroms à répétition.
Tu peux nous en dire plus sur le mot pogrom ?
Oui, bien sûr. C'est un mot russe que l'on pourrait traduire par destruction, massacre. C'est-à-dire que les soldats, les policiers et la population, quelquefois, investissaient les villages juifs, ce qu'on appelait les shtetl, et massacraient la population, tuaient le bétail, détruisaient les récoltes, incendiaient les maisons. Et le pouvoir laisse la population se déchaîner contre les communautés juives. Quand, comme je l'ai dit, sa police et son armée n'y participent pas elles-mêmes. Par exemple, en 1881, le tsar Alexandre II meurt dans un attentat. On va en rendre les Juifs responsables. Cela va déclencher une série de pogroms qui feront des centaines de victimes. À Vienne, dans les années 1890, un journaliste juif, Theodor Herzl, est particulièrement touché par ces événements. Il commence à se persuader que l'antisémitisme est une donnée immuable, bien ancrée dans la société humaine et qui ne peut pas être résorbée même par l'assimilation.
Oui, c'est l'idée qu'il développe dans son livre « L'État des Juifs » en 1896. Son originalité est qu'il ne fait aucune différence entre les Juifs de l'Est et de l'Ouest. Il aura un grand succès et sera traduit en 18 langues. Avec Herzl, on passe du sionisme religieux au sionisme politique. Et à partir de cette rupture, toutes les tendances politiques seront possibles. Du socialisme de David Gordon au fascisme de Jacobinski en 1923.
Et puis, un second coup de tonnerre, selon Herzl, se déroule en France. Ce pays, rappelons-le, fut le premier durant la Révolution de 1789 à reconnaître les Juifs comme étant des citoyens à part entière. Un proverbe yiddish ne dit-il pas « heureux » comme Dieu en France, qui sera repris plus tard par « heureux comme un juif en France ». En 1894, dans la patrie des droits de l'homme, éclate l'affaire Dreyfus, du nom de ce capitaine de l'armée française, d'origine juive, qui est accusé à tort de trahison au profit de l'Allemagne. La France se déchire en deux, entre les défenseurs de Dreyfus et les anti-Dreyfusards. S'ensuit une campagne antisémite sans précédent, notamment dans la presse d'extrême droite.
Et en particulier, la libre parole du journaliste Édouard Drumont, sûrement le plus grand propagateur de l'antisémitisme sous la Troisième République. Il écrit en 1880 « La France juive », qui lui valut, j'ai envie de dire seulement, une condamnation et une amende et de duel. Beaucoup d'observateurs politiques font aujourd'hui la comparaison entre la vision de la France juive de Drumont et celle de la France musulmane par Zemmour.
Pour Herzl, la preuve est faite. Et en août 1897, à Bâle, d'où la première partie du titre de notre émission, s'ouvre le premier congrès mondial sioniste qui marque l'année-science officielle du mouvement sioniste, malgré l'opposition de l'ensemble des rabbins et des organisations ouvrières juives. D'autres pogroms vont avoir lieu, dont le plus tristement célèbre, en 1903 à Kitchinev, en Moldavie. 50 morts et 700 blessés, dont près d'une centaine graves. C'est l'époque où les pays aspirent à devenir des États-nations constitués. Ce qui va conforter l'idée d'un État pour les Juifs. Après avoir songé à créer un État juif en Ouganda ou en Argentine, en 1905, c'est la Palestine qui est choisie. Bien que majoritairement non-croyants, ces sionistes s'appuient sur la religion et se persuadent que les Juifs sont les descendants des anciens Hébreux, comme le dit la Bible. Pour avoir le soutien des religieux, ils décident que la Palestine sera rebaptisée Israël et qu'elle n'est finalement qu'une terre sans peuple pour un peuple sans terre.
Oui, c'est important car la Bible, c'est pas un récit historique. Elle est instrumentalisée à des fins politiques. Autre remarque sur la terre sans peuple, c'est un argument classique qui a été utilisé pour justifier l'extension du camp du Larzac à notre petite échelle géographique, mais surtout pour la création des États-Unis. C'est un point d'histoire commun entre les Américains et les Israéliens.
Et pourtant, la Palestine est habitée.
Fühlst du geringer dem Kram? Die goldene Pfade, der kennst du in Flieh. Und eine Eigenschaft fälschene, wenn sie's von nicht hier.
Il est peut-être nécessaire de resituer géographiquement la Palestine à cette époque. Cela ressemble à une bande de terre de 1500 km de long, se terminant en pointe au nord et au sud. C'est plus petit en superficie que la Bretagne. Baigné à l'ouest par la Méditerranée, à l'est en limite par le fleuve du Jourdain, la Transjordanie avec la mer Morte, au nord le Liban et la Syrie, et au sud l'Égypte. Vers la fin du XIXe siècle, on compte 470 000 habitants, de nombreux villages, villes et ports actifs. Jaffa est le plus gros port mondial exportateur d'oranges, sans oublier l'huile d'olive, dont le savon, le blé, l'avoine, le coton, etc. Outre les populations sédentaires, le pays compte aussi des bédouins, semi-nomades du désert, qui n'ont pas d'acte de propriété. En Palestine, l'organisation des terres repose sur un genre particulier de propriété collective exercée par la totalité de la communauté villageoise sur l'ensemble des terres qu'elle cultive. Et, périodiquement, ces terres sont redistribuées selon les besoins. Suite à l'essor économique, de nouvelles lois foncières vont être édictées. Le système solidaire ancestral va se heurter aux notables issus des élites palestiniennes, des banquiers, la plupart libanais, qui tournent ces nouvelles lois à leur profit. La paysannerie va se faire déposséder de son système particulier de gestion collective des terres, au détriment d'un statut d'ouvrier agricole de grand domaine.
Oui, l'application en fait du code foncier ottoman est repris par les Anglais avec l'obligation d'enregistrer les terres, ce qui va être l'objet de manipulations de la part des propriétaires éloignés n'ayant jamais vécu sur place. Par ailleurs, les propriétaires, donc une fois enregistrés, avaient l'obligation de faire le service militaire, ce que refusaient en fait les fellahs qui étaient opposés à la gestion des Ottomans.
Précédant la colonisation brutale, le Fonds national juif, sorte de banque, est chargé d'acheter des terres, surtout les meilleures, aux grands possédants.
Alors ce Fonds national juif a été créé en 1901 à Bâle, lors du 5e congrès sioniste. Et alors, il favorise aussi l'immigration et l'intégration des pionniers en Palestine. Après 1948, le fonds récupérera les terres des Palestiniens réfugiés. On en reparlera.
Durant la Première Guerre mondiale, la Turquie est alliée à l'Allemagne et l'Empire ottoman occupe, entre autres, le Proche-Orient. En 1916, les empires britanniques et français décident secrètement de se partager les provinces orientales de l'Empire ottoman. Ce sont les accords Sykes-Picot, du nom des deux ministres respectifs chargés des pourparlers. Il s'agit en réalité d'un accord de voleurs se partageant à l'avance un bulletin qu'ils n'ont pas encore. La France récupère le Liban et la Syrie, la Grande-Bretagne, la Palestine. L'année suivante, le 2 novembre 1917, le représentant du mouvement sioniste, Lord Walter Rothschild, reçoit un courrier de la part de Lord Arthur James Balfour, alors ministre des Affaires étrangères. C'est ce qui restera dans l'histoire comme la déclaration Balfour, d'où l'autre terme du titre de l'émission. En voici un extrait. Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif, étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte aux droits civils et religieux des collectivités non juives existant en Palestine. D'ailleurs, le journaliste et romancier Arthur Kessler, ô combien sioniste, résuma en ces termes la déclaration Balfour. Une nation a solennellement promis à une seconde le territoire d'une troisième.
Oui, la Grande-Bretagne donc a promis donc aux Juifs le territoire de la Palestine.
Ne nous y trompons pas. Lord Balfour est un antisémite convaincu. Alors qu'il était Premier ministre en 1905, il ferme les frontières de la Grande-Bretagne et fustige dans un discours aux communes la venue des Juifs polonais. Pour lui, les Juifs en Europe ne sont que des parias asiatiques inassimilables, semant la révolution à Londres.
Le nombre de Juifs qui émigrent en Angleterre est très important. C'est ce qui inquiète Balfour. Balfour, par ailleurs, alors ministre des Affaires étrangères, est une personne complexe. Il est également proche des sionistes chrétiens. Il écrit en 1919 « Le sionisme, qu'il soit bon ou mauvais, est enraciné dans de vieilles traditions, dans des espoirs futurs, d'une beaucoup plus profonde importance que les désirs et les préjudices des 700 000 Arabes qui habitent maintenant sur une terre ancienne. »
Comme quoi, on peut être antisémite et pro-sioniste.
Nous y reviendrons dans une prochaine émission.
Revenons à la période de la Grande Guerre, où Anglais et Français multiplient les promesses d'indépendance auprès des Arabes du Proche-Orient pour qu'ils se révoltent contre les Turcs. Bien sûr, ces promesses immortalisées par l'épopée de Laurence d'Arabie ne seront jamais tenues. Trois choses intéressaient les Anglais. Le canal de Suez, la route vers les Indes, et la plus grosse réserve de pétrole du monde de ce qui deviendra l'Arabie saoudite. Ils n'hésiteront pas, d'ailleurs, à porter au pouvoir le pire courant obscurantiste de l'islam, le wahhabisme. La Société des Nations, ancêtre de l'ONU, avalisera les accords Sykes-Picot et donnera, en 1923, à la Grande-Bretagne, un mandat sur la Palestine.
Un mandat, ça consiste en quoi ?
Un mandat, ça veut dire que l'on confie l'administration d'un territoire à une puissance étrangère. Les grandes puissances donnent ainsi un blanc-seing pour la poursuite de la colonisation. Celle-ci ne va cesser de s'accroître. En 1917, les Juifs seront environ 50 000 en Palestine, contre 3 millions aux États-Unis et 6 millions dans l'Empire russe. Les Juifs représentent 10% de la population palestinienne. Il est important de rappeler qu'à cette époque, la grande majorité des Juifs d'Europe rejettent le sionisme et, face à leur prolétarisation, s'éloignent de la religion en s'engageant massivement dans les mouvements progressistes ou révolutionnaires dans leurs pays respectifs. Beaucoup sont organisés dans le Bund, parti révolutionnaire juif, qui considère le sionisme comme étant le parti de la bourgeoisie. Ils estiment que leur émancipation, en tant que minorité opprimée, passe par l'émancipation de l'humanité.
Ces personnes sont contre le séparatisme territorial de la communauté juive. Ils pensent que l'émigration est une fuite en avant, mais ils tiennent à la culture yiddish. Ils s'opposent aussi aux rabbins et s'éloignent des pratiques religieuses.
Pour terminer, en s'appuyant sur l'ensemble de ces sources que vous retrouverez sur le site de l'émission, on peut légitimement se poser la question. Le sionisme politique avec Herzl ne porte-t-il pas en lui, dès sa naissance, la notion d'exclusion ? Le sionisme prônant dès le début une idée de séparation d'avec les autres pour se protéger, ne va-t-il pas évoluer vers une exclusion des autres ? Nous vous laissons réfléchir à cela. Près d'un demi-siècle avant le terrible génocide qui va bouleverser les idéologies et amener à la création de l'État d'Israël, on verra dans les émissions suivantes comment et sous quelle forme les idées sionistes se sont concrétisées.
Liegt gebunden mit a Strick. Hoch im Himmel flieht a Vogel, flieht und reiht sich in uns Rick. Lacht der Wind im Korn, lacht und lacht und lacht, lacht der Ubatur. Schreit das Kälbel, sagt der Feuer, wer jet geheißt dir seiner Kalb, wost gekennt doch seiner Feuer, wost gekennt doch seiner Schwalb. Lacht der Wind im Korn, lacht und lacht und lacht, lacht der Ubatuga ganz nun mal halbe Nacht. Dona, 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 dona,
C'était donc Histoire de Palestine, épisode 1, de Bâle à Balfour. A noter que le collectif Palestine 12 vous propose une conférence de Patrice Bouveret, qui est cofondateur de l'Observatoire des armements, sur la coopération militaire et sécuritaire entre la France et Israël. Cette conférence aura lieu le mercredi 25 mai à la salle de conférence du CREA à 20h30.